autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour changer de perspective et d'approche face au cancer. Notre plus vieil ennemi, le crabe, Carcinos en grec ancien, décrit dès l'Antiquité par Hippocrate, est aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. Comment expliquer que ce fléau, qui mobilise la recherche médicale, qui a été examiné, étudié sous tous les angles, nous résiste autant? Et si on était passé à côté d'une dimension essentielle, la dimension évolutive, adaptative du cancer, qui ne se réduit pas à une maladie, aussi terrible soit-elle, mais qui est aussi un processus biologique, évolutif, à l'œuvre dans tout le vivant. Comment reconsidérer le cancer à la lumière de l'évolution et pourquoi ça change tout? Voilà ce que nous allons nous demander avec notre invité, le chercheur Frédéric Thomas, pionnier et précurseur d'une nouvelle approche, d'une nouvelle conception révolutionnaire du cancer, à la lumière de la biologie de l'évolution. Autour de la question « Comment changer de regard sur le cancer ?» Bienvenue. Bonjour Frédéric Thomas.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Merci d'être venu de Montpellier pour être en direct avec nous. Vous êtes biologiste de l'évolution, directeur de recherche au CNRS, basé au laboratoire MIVEGEC à Montpellier, où vous êtes co-directeur du Centre de recherche écologique et évolutive sur le cancer, lauréat de la médaille d'argent du CNRS pour vos travaux précurseurs révolutionnaires, qui, pour reprendre le titre de votre essai, tout juste paru aux éditions Humaine Science, lève le voile sur l'abominable secret du cancer. Allusion à Darwin, le père de la théorie de l'évolution. En quoi votre lunette de biologiste de l'évolution vous ouvre à une autre approche de ce fléau de notre pire et plus vieil ennemi, le cancer, Frédéric Thomas?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la santé, ça peut être étudié également par les sciences de l'évolution. C'est un espèce de rendez-vous que les chercheurs ont eu il y a un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant. Ils ont commencé à s'interroger mutuellement avec les médecins. Et on s'aperçoit que c'est donc toutes les maladies qui peuvent être examinées par ce prisme. Et le cancer, par excellence, est vraiment la maladie qui est un processus évolutif. Alors, depuis son origine même dans l'histoire du vivant, hein, qui est une maladie qui est apparue il y a plus d'un demi-milliard d'années avec les premiers organismes multicellulaires.
En même temps que la vie, en même temps que le vivant?
Non,
pratiquement.
Non, en même temps que le vivant multicellulaire. C'est-à-dire qu'en fait, la vie a d'abord été unicellulaire, elle est restée même 2 à 3 milliards d'années unicellulaire sur la planète. Il n'y a donc pas de cancer en fait à cette époque-là. Et puis lorsque la vie a commencé à se structurer de façon plus complexe en société de clones, hein, puisque nous sommes des sociétés de clones, nous avons nous des milliards de cellules qui à la base étaient identiques, même si elles accumulent des mutations au cours de la vie. Hein, et donc lorsque la vie s'est complexifiée comme ça, la tentation de cellules voyous, tricheuses, s'est installée. Et donc, c'est l'origine du cancer. Mais c'est aussi un problème de biologie évolutive en temps réel chez une personne qui est malade. C'est-à-dire qu'en fait, entre les lésions précancéreuses jusqu'au cancer métastatique, c'est un processus darwinien, donc régi par des mécanismes évolutifs qui vont expliquer la progression de la tumeur jusqu'à l'invasion dans le corps et même la résistance à nos thérapies. Hein, c'est une preuve donc d'évolution du cancer. Donc, pour plein de raisons, le cancer est un pur problème de biologie évolutive et on commence juste à vraiment étudier ça sous cet angle-là.
Et oui, justement, ouais. Pourquoi est-ce qu'on commence juste? Pourquoi est-ce que ça nous a échappé, votre première phrase de cet essai? Et si nous étions passés à côté d'une dimension essentielle du cancer, de sa nature réelle?
Alors, le pire, c'est que les premiers papiers qui parlaient du cancer comme un pur problème de biologie évolutive remonte au milieu des années 70 avec 2 articles fascinants dans les prestigieuses revues Science et Nature. Et paradoxalement, ces papiers sont un petit peu passés à la trappe et ça fait que relativement peu de temps que l'on réalise pleinement à quel point l'adoption d'une vision évolutive ou évolutionniste du cancer permet de considérablement améliorer notre compréhension de la croissance des tumeurs, de mieux prévenir le cancer et, comme on aura l'occasion sans doute d'en parler, même d'améliorer les thérapies. Et en fait, pourquoi on s'en aperçoit que maintenant? Tout simplement parce que la science est cloisonnée. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les sciences médicales, d'un autre côté les sciences de l'écologie et de l'évolution, d'un autre côté les sciences de physique, etc. Et donc, en fait, c'est l'interdisciplinarité qui permet de libérer ces connaissances-là et de travailler ensemble pour comprendre des phénomènes complexes comme le cancer.
Votre définition du cancer, Frédéric Thomas? Processus évolutif, qu'est-ce
c'est
que vous diriez ?
C'est un processus évolutif inéluctable, c'est le prix à payer pour avoir des sociétés de clones qui ont, comme nous avons, le bonheur d'exister. Et donc c'est malheureusement, c'est un processus biologique avant d'être une maladie, c'est un processus biologique qui a façonné plein d'adaptations à l'intérieur des organismes multicellulaires.
Et qui touche tout le vivant, c'est ça l'abominable secret du cancer ?
J'ai envie de dire que dès qu'il y a plus de 2 cellules dans un organisme, eh bien, il y a un risque à ce qu'il y ait une désobéissance, un égoïsme ancestral qui revienne, et c'est avant tout ça le cancer.
Des cellules voyous et un égoïsme ancestral, c'est ça le cancer. Ça. Comment lutter efficacement contre ce fléau autour de la question pourquoi changer de regard et d'approche face au cancer ? Première question donc sur notre plus ancien ennemi, et celui de tous les organismes vivants, soulevée par le médecin légiste, paléopathologiste et anthropologue Philippe Charlier, qui était récemment notre invité.
Quand on parle de cancer, est-ce que ce sont les mêmes cancers qu'il y avait il y a 150 000 ans, il y a 3000 ans, il y a 100 ans et maintenant ? Est-ce qu'il y a une histoire naturelle du cancer ? Est-ce que ce sont les mêmes agents ? Est-ce que c'est la même réaction de l'organisme ou pas ?
Votre réponse, Frédéric Thomas ?
Alors, il existe quelques cancers, on en reparlera tout à l'heure, qui sont directement contagieux, donc ceux-là peuvent évoluer exactement.
Des cancers contagieux.
Oui, des cancers qui sont contagieux. Il y a 3 exemples, au moins, dans l'état actuel des connaissances. Donc des cancers, alors je ne parle pas de cancers qui ont une origine infectieuse, ça on en connaît plein, les papillomavirus, les hépatites, qui nous donnent des cancers, donc des cols de l'utérus, ou cancer du foie. Là, je parle de cancers qui sont directement contagieux. Donc, il y a un cas spectaculaire qui concerne les diables de Tasmanie. Donc là, ce sont les cellules cancéreuses qui
sont des animaux qui
vivent en Australie. Donc, ces animaux qui sont particulièrement agressifs, ils se mordent tout le temps et à la faveur de ces morsures, ils se transmettent des cellules cancéreuses. Donc, c'est directement la cellule cancéreuse qui est l'agent infectieux. Et donc, ce cancer est apparu il y a 25 ans. Il a décimé près de 90% de la population de diables de Tasmanie. Donc, en fait, si vous voulez, ces cellules cancéreuses-là échappent à leur destin, entre guillemets, tragique, qui est de mourir avec leur hôte, et elles se transmettent au fil du temps. Donc il y a d'autres exemples, un cancer sexuellement transmis chez les chiens, une leucémie chez des bivalves qui vivent surtout en Amérique du Nord.
Sur des mollusques.
Voilà, c'est ça. Hein, voilà. Et donc là, ce qui est d'ailleurs fascinant dans ce cas-là, c'est que les cellules cancéreuses sont capables de passer la barrière des espèces. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent infecter 3 ou 4 espèces de bivalves différents. Mais pour répondre à la question, d'une façon générale, le cancer doit réinventer la roue à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, toute la nouveauté génétique produite par le processus cancéreux pendant lesquels quelques années où il se développe dans un organisme, normalement ne sera pas transmise à la génération suivante puisque la tumeur va disparaître avec le décès de la personne. Donc c'est une nouvelle aventure à chaque fois. Et donc pour répondre à la question, oui, les cancers sont certainement les mêmes qu'auparavant. Par contre, ils sont plus fréquents parce que nous maltraitons notre ADN comme jamais dans toute l'histoire de l'humanité.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parfois on parle d'épidémie de cancer. Il y a une récente étude dans Le Monde qui montrait que l'incidence augmente en France notamment. Est-ce qu'il y a plus de cancers aujourd'hui qu'hier? On en a l'impression. Autour de nous, on en a l'impression.
Alors, c'est une question... Bon, clairement, oui, il y en a plus. Par contre, il faut vraiment regarder les statistiques en détail. Tout simplement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer est une maladie qui augmente avec l'âge. Plus on vieillit, plus on augmente nos chances d'avoir un cancer. Donc aujourd'hui, évidemment, on vit plus longtemps. Donc tout le monde est content aussi de vivre plus longtemps. Donc c'est le prix à payer, c'est aussi d'avoir plus de cancers. Bon. Il y a plein de maladies que l'on soigne beaucoup mieux qu'auparavant. Des maladies cardiovasculaires, maladies infectieuses. Bon. Donc du coup, les maladies
qu'on soigne... Ça laisse le champ libre au cancer.
Exactement. Qu'on soigne moins bien, de facto, on va retrouver dans les statistiques forcément plus de cancers. Bon. Alors quand on corrige par tous ces effets potentiellement confondants, la réponse c'est oui, effectivement, il y a plus de cancer à âge corrigé, à âge identique. Et là, l'explication, c'est clairement notre mode de vie qui est en question.
Notre mode de vie, notre environnement.
Notre environnement. Quand je dis notre mode de vie, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est exposé comme jamais à des mutations, à des agents mutagènes. Et donc, du coup, on vit plus longtemps aussi.
Mais pourquoi on y est exposé comme ça? À cause des molécules chimiques dans l'environnement? À cause de notre mode de vie?
Absolument, notre mode de vie. Aujourd'hui, on a donc des pesticides, des insecticides de partout. Autrefois, les gens qui étaient dans les régions nordiques avec une peau bien blanche n'allaient pas vivre sous les tropiques. La consommation de tabac, tout au moins de façon régulière, tout ceci est inédit dans l'histoire de l'humanité. Donc en fait, on a aujourd'hui ce qu'on appelle un décalage, un mismatch entre ce pourquoi on a été optimisé pendant toute notre histoire et notre exposition à l'heure actuelle.
On était optimisé pour lutter contre ces cellules voyous, c'est ça.
Absolument, et c'est En fait, les processus de défense sont, j'ai envie de dire, quasiment obsolètes aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ont été mis en place à une période où le risque était beaucoup moins important.
On se défendait moins bien contre le cancer parce qu'on était moins exposé finalement.
Moins concerné.
On
mangeait bio, il n'y avait pas de diesel, il n'y avait pas de particules fines.
Pourquoi et comment se déclenche un cancer? C'est une des nombreuses questions que pose notre ennemi, le crabe, hein, aux chercheurs à ce sujet. Une nouvelle question justement soulevée par un autre chercheur de l'INRA, Thomas Hims, qui était récemment notre invité, qui s'est intéressé lui à ce qu'il appelle les infravies, hein, toutes les formes de vie des plus infimes, hein, du virus aux bactéries. Écoutez sa question sur le développement du cancer.
On voit souvent un cancer comme un moment où des cellules décident de désobéir à des règles. Mais si on accepte l'idée que finalement, les règles, les programmes, c'est beaucoup une vision subjective qu'on a du fonctionnement des vivants, la question que je pourrais poser, c'est si on replace le désordre, y compris au cœur des mécanismes classiques du vivant, en quoi le désordre du cancer diffère radicalement du désordre qui est nécessaire pour les vivants ?
Le désordre est nécessaire aux vivants. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, Frédéric Thomas. Est-ce que les cellules cancéreuses, c'est la preuve d'un désordre?
Alors c'est un désordre, oui, mais il y a plein de désordres. Il y a plein de conflits dans le vivant. Ça serait trop long d'en parler là. Mmh. Mais ce qui est sûr, c'est que le monde ne se divise pas en deux, ceux qui ont un cancer et ceux qui n'ont pas de cancer. C'est un continuum depuis les premières mutations jusqu'aux lésions précancéreuses, puis les cancers métastatiques. Et donc, on est tous porteurs de ces processus dans le corps. Et je dirais même que plus on vieillit, plus on en a. Hein.
Donc c'est la conclusion. Plus on a, donc on a tous, a priori, on a tous des cancers, mais qui ne se sont pas développés.
C'est ce que j'avais baptisé dans une de mes récentes publications, un l'oncobiote, hein, par rapport à
l'oncobiote, par rapport au microbiote dont on parle tant. Nous vivons avec nos cellules cancéreuses.
Exactement. Et donc, c'est tout simplement une toute petite partie qui nous pose problème. C'est celles qui vont évoluer vers des formes invasives. Hein. Donc, c'est un petit peu comme un iceberg, hein, et c'est uniquement la partie vraiment complètement émergé qui nous ennuie. Et avec les moyens de détection précoce que nous améliorons chaque jour, bientôt on sera capable de voir la totalité de l'iceberg. Et en fait, ce n'est pas le souci, puisqu'avec cette logique-là, on va arriver au minimum à la conclusion que nous sommes tous des cancéreux asymptomatiques.
Des cancéreux asymptomatiques, oui. Des cancéreux sans symptômes.
Donc en fait, le vrai challenge, c'est de savoir lesquels vont évoluer vers des formes qui, eux, sont des tueurs, et de traiter cela uniquement. Et cela uniquement pour des raisons financières, psychologiques, etc. Quand je dis psychologique, c'est pas anodin, effectivement. Parce
bien
que,
sûr.
Imaginez, vous trouvez chez quelqu'un une tumeur qui devrait tuer cette personne-là, si c'était ça la cause de la mort, à 250 ans. Donc il n'y a aucun intérêt à retirer cette tumeur-là. Par contre, si vous la retirez, bah, vous allez convaincre cette personne-là qu'elle avait un cancer. Et donc du coup, bah, sa joie de vivre, son sommeil, plein de choses vont changer dans sa vie. Et donc il n'y avait aucun intérêt à faire ça. Donc c'est vraiment important de ne pas faire du surdiagnostic et de traiter uniquement les tumeurs qui sont destinées à devenir des tueurs. Hein. Et donc il y a de plus en plus de recherches maintenant pour essayer de prédire justement sur la base de critères écologiques et évolutifs, lesquelles sont véritablement dangereuses.
Oui, de l'intérêt hein, de ces sciences de l'évolution, de cette biologie de l'évolution pour comprendre les cancers qui vont réussir, hein, avec tous les guillemets que je peux poser. Parce que le cancer, finalement, c'est un formidable succès. Il y a toujours des guillemets de l'évolution. Enfin, comment elles réussissent, ces cellules voyous qui réinventent la roue à chaque fois
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne voit que les cellules, on ne voit que les cancers qui ont réussi sur on ne sait combien de candidats qui, chaque jour, dans notre corps, essaient de se développer. Alors, effectivement, c'est une nouvelle histoire à chaque fois. Donc, on peut être surpris de s'apercevoir qu'il y a quand même une forte similarité entre les organes, entre les individus, entre les espèces. Hein, une tumeur solide, ça ressemble à peu près toujours à la même chose.
Chez tous les animaux, chez les hommes y compris.
Oui, tout à fait. Et donc, du coup, il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est que c'est ce qu'on appelle une sélection convergente. C'est-à-dire que c'est peut-être finalement la seule possibilité pour réussir à perdurer par rapport à l'adversité de l'environnement multicellulaire, hein, puisque les cellules cancéreuses ne sont pas forcément bien accueillies quand elles se développent dans notre corps. Et donc les seules qui arriveraient à survivre sont celles qui arrivent à se structurer en tumeurs comme ça. Et puis une autre hypothèse fascinante pour expliquer cette similarité, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse atavique du cancer, en fait, qui stipule que le cancer correspondrait à la réactivation de programmes ancestraux sélectionnés au précambrien. Donc je m'explique. À cette période de la vie sur Terre, il y a plus d'un demi-milliard d'années, les organismes étaient unicellulaires et pour faire simple, la seule chose, entre guillemets, qu'on leur demandait de faire, c'était de proliférer tant qu'ils pouvaient, souvent dans des conditions difficiles. Et donc, la multicellularité, c'est basé sur cette unicellularité pour se bâtir. Alors, c'est sûr que si la sélection naturelle était travaillée comme un parfait ingénieur, elle aurait sans doute éliminé purement et simplement bon nombre des adaptations de ces unicellulaires pour bâtir une multicellularité fonctionnelle. Le problème de la sélection naturelle, c'est qu'elle ne travaille pas comme un parfait ingénieur, mais comme un bricoleur aveugle et dépourvu de tout sens moral qui ne fait qu'optimiser.
Ce qui marche, ça reste. Et voilà, puis voilà.
Optimiser une situation par rapport à l'étape d'avant. Et du coup, certaines de ces adaptations n'auraient pas été complètement éliminées. Et leur réactivation accidentelle conduirait à cette situation en fait absurde où des organismes complexes et modernes comme vous et moi se retrouveraient soudainement en compétition avec des entités vivantes qui ont des adaptations du précambrien. Ce qui au passage permettrait d'expliquer pourquoi certaines cellules cancéreuses sont particulièrement à l'aise dans les environnements acides et sans oxygène, puisque c'était des conditions qui étaient sans doute prévalentes au précambrien.
Ce que vous montrez également de complètement fascinant dans cet ouvrage, Frédéric Thomas, c'est l'incroyable diversité de toutes ces cellules cancéreux, c'est un monde monstrueux et énorme.
Alors c'est effectivement une des caractéristiques de tous les cancers, ça l'est plus ou moins, mais en tout cas c'est quand même régulier, une incroyable hétérogénéité intratumorale. C'est-à-dire qu'en fait, certains auteurs n'hésitent pas à dire que dans une tumeur de quelques grammes, il y a plus de diversité qu'il y en aurait entre tous les hommes de la planète. Donc c'est fascinant et en même temps, on comprend pourquoi, hélas, c'est ce qui va permettre aux cellules cancéreuses de résister à nos traitements. Imaginez par exemple, je prends souvent cet exemple-là avec mes étudiants, que l'on mette tous les habitants de la planète cette nuit à moins 35 degrés, et ben, je suis sûr que demain matin, il y aura au moins quelques Inuits qui auront survécu. Voilà. Donc là, c'est un petit peu pareil. Malheureusement, lorsque une tumeur est détectée tardivement, elle comporte une diversité qui est souvent incroyablement élevée. Et donc, il y a de grandes chances que, quelle que soit la thérapie que l'on va appliquer, eh bien, il y aura des variants qui sont résistants. C'est la raison pour laquelle certains cancers, on ne peut plus les soigner. Mais là, il y a d'autres solutions.
Solutions et il y a plein de pistes, parce que vous donnez plein de pistes. Ce regard évolutif sur le cancer permet d'ouvrir de nouvelles pistes thérapeutiques. On va y venir autour de la question comment changer de regard et d'approche sur notre plus vieil ennemi, le cancer. On continue de s'interroger avec vous, Frédéric Thomas, et avec Stromae sur RFI Cancer.
Vous écoutez RFI autour de la question.
Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein. T'as commencé par ses seins. Et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? Enfants, décidément rien ne t'arrête, toi. Et arrête de faire ton innocent sur les paquets de cigarettes. Fumais-tu? Tu m'étonnes, mais tu m'aides. Quand c'est que tu pars en vacances? Quand c'est, quand est-ce que tu y penses? Quand c'est, ça nous fera des vacances.
Quand c'est,
Cancer. cancer. Stromae sur RFI autour de la question comment changer de regard et d'approche face au cancer, à ces cellules tricheuses, à notre plus vieil ennemi, comment le reconsidérer à la lumière de l'évolution et pourquoi ça change tout. Comme nous l'explique notre invité, le biologiste de l'évolution Frédéric Thomas, directeur de recherche au CNRS, dans son essai L'abominable secret du cancer, un des plus abominables secrets, vous nous l'avez déjà révélé Frédéric Thomas, c'est que nous avons tous des cancers en formation, nous sommes tous des cancéreux asymptomatiques, nous ne sommes pas tous égaux devant le cancer, nos organes non plus ne sont pas tous égaux devant le cancer.
Absolument, nos organes, les différentes espèces, il y existe une vulnérabilité différentielle. Certains organes sont exposés directement à des mutagènes. D'autres ont des taux de prolifération, de renouvellement cellulaire beaucoup plus importants. Et certains sont plus importants que d'autres pour nous maintenir en bonne santé. Si vous avez un problème au cœur, au cerveau ou au pancréas, ça va rapidement faire chuter votre valeur sélective, beaucoup plus qu'un problème à la vésicule biliaire, par exemple. Donc, l'ensemble de ces paramètres ont façonné des vulnérabilités et des résistances différentielles au cancer. Chez les espèces, c'est la même chose.
Oui, chez les autres espèces animales qui sont tous plus ou moins soumis au cancer. Enfin, tout le vivant, multicellulaire, vous l'avez dit,
est susceptible. Par contre, certaines espèces n'ont pas plus de cancer que nous, alors qu'a priori, elles devraient en avoir plus.
Par exemple
Si vous prenez le cas, par exemple, des éléphants ou des baleines, ils ont un nombre incroyablement plus élevé de cellules que nous. Donc si on part du principe qu'un cancer, c'est avant tout initié par une seule cellule qui déraille, eh bien, les organismes qui sont de grande taille, avec donc beaucoup de cellules et qui vivent longtemps, ils devraient avoir plein de cancers par rapport à ceux qui sont petits et qui vivent pas longtemps. Et en fait, ce n'est pas le cas. Et en fait, là encore, l'explication, c'est l'évolution qui stipule que ces grandes espèces n'ont pu perdurer sur des temps évolutifs que si elles ont été capables, de façon concomitante, dans leur génome, dans leur physiologie, de mettre en place des barrières naturelles contre le cancer.
Donc, c'est-à-dire que la vie, c'est une sorte de lutte, en fait, un peu permanente entre ces cellules tricheuses, enfin, pour se maintenir en vie.
Oui.
Le cancer, vous dites, fait partie de nos vies. Et c'est une lutte permanente.
C'est une lutte permanente. Et on sait, par exemple, aujourd'hui, que le secret de l'éléphant, qui est donc beaucoup plus gros que nous, mais qui n'a pas plus de cancer que nous, eh bien, c'est d'avoir 20 copies d'un gène suppresseur de tumeur, alors que chez nous, il y en a une seule copie.
Là encore, ça pourrait faire des pistes thérapeutiques sur le long terme, c'est-à-dire de comprendre quand même comment ça fonctionne, quels gènes peuvent arrêter le processus.
Absolument, c'est-à-dire qu'en recherchant pourquoi certaines espèces ont des résistances particulières au cancer, ça peut à terme inspirer des nouvelles thérapies pour venir mimer ce qui se passe chez ces espèces.
J'ai envie de vous faire parler d'une espèce assez étonnante qui fascine, je crois, les chercheurs et pas que, c'est le rat taupe nu. Bon, il est très très laid. C'est une petite souris d'Afrique, aspect assez redoutable, mais enfin, il est totalement insensible au cancer.
Insensible au cancer, donc c'est vrai que c'est un animal.
À la douleur aussi, d'ailleurs.
Oui, à la douleur également. Ouais. C'est un animal qui est fascinant parce qu'il est gros comme une souris. Par contre, il peut vivre une trentaine d'années, ce qui est absolument incroyable pour un animal de cette taille. Et donc, il y a zéro cancer connu chez cette espèce-là. Donc, beaucoup de recherches pour essayer de percer son secret. Donc, il existe bien sûr des explications mécanistiques, moléculaires. On sait que l'acide hyaluronique est impliqué. Mais il y a également des explications évolutives, de se dire mais pourquoi la sélection naturelle a favorisé ces mécanismes-là qui lui permettent donc de vivre une trentaine d'années. Une autre particularité de cet animal, c'est que c'est une espèce eusociale. C'est un peu comme les insectes sociaux. Vous avez donc des reproducteurs et puis les autres sont des ouvriers qui ne se reproduisent pas. Donc, un animal absolument fascinant. Je vous invite à aller voir sur internet à quoi il ressemble. Vous
allez voir qu'il y a un certain prix. Il n'est pas beau, mais enfin, il est insensible à la douleur, voilà. Il est insensible au cancer, à la maladie d'Alzheimer et même au vieillissement. Oui. Il aurait les secrets d'immortalité, ce rat taupe nu.
Oui, donc beaucoup de recherches autour du rat taupe. Mais vous verrez qu'il y a un certain prix à payer pour être résistant à tout ça.
Oui, absolument. Pas très très joli à regarder. Un prix esthétique, on va dire. Autour de la question comment changer d'approche face au cancer, notre plus vieil ennemi, nous continuons de découvrir à la lumière de l'évolution de nouvelles pistes de recherche et de compréhension évolutive avec vous. On ira aussi vers les pistes thérapeutiques. Également, nous découvrons de nouvelles pistes de détection du cancer grâce à l'odorat, cette fois-ci, des chiens. Explication tout de suite d'Isabelle Fromentin, une infirmière extraordinaire devenue docteur en sciences, qui est à l'origine du projet CADOG, ou comment des chiens réussissent à détecter des tumeurs cancéreuses. Isabelle Fromentin, au micro d'Alice Milot.
Il s'agit d'essayer, avec des chiens, de détecter les personnes atteintes de cancer du sein. Pour l'instant, on est uniquement sur le sein, sans contact direct entre le chien et les patients. Par quoi on va passer ? On va passer par une compresse qui va être mise en contact du sein de malades ou de personnes volontaires, et le chien on va voir s'il réussit à déterminer ou non s'il y a cancer ou pas. Le but à terme, c'est, si ça marche, d'en faire un outil de détection simple, peu coûteux, rapide, qui nous donnera une seule information, cancer, pas cancer. Pour nous, c'est un enjeu énorme, et pour lui, c'est un jeu. Lui, le chien, il a un odorat extrêmement développé, et il arrive à quelque chose qu'on n'arrive pas à faire encore technologiquement. Alors sur cette première phase de test, ils ont réussi à 100%.
À quoi ça sert de faire ça, puisque on est capable aujourd'hui avec les mammographies de détecter les cancers. Donc au fond, en quoi le chien va être un plus?
Ici en France, on peut quand même s'interroger sur le fait que selon les régions, quelquefois il n'y a que 50% des femmes qui répondent au dépistage systématique. On sait que dans certains pays à faible accès aux soins, eh ben, il n'y a pas d'outils diagnostiques simples proposés aux femmes, même s'il y a dans les capitales, par exemple, des infrastructures en capacité de prendre en charge un cancer. Faute de diagnostic précoce, beaucoup de femmes vont mourir d'un cancer du sein qui aurait pu être traité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous motive beaucoup.
Frédéric Thomas, vous voulez réagir à ce que vient de dire Isabelle Fromentin? D'autres travaux sont en cours pour détecter plus rapidement et plus simplement?
J'ai même des recherches dans mon laboratoire avec cette approche-là, où on a des souris à qui on est capable donc d'induire un cancer du poumon, et on essaie de regarder si, entre elles arrivent à détecter la maladie. Donc bien sûr, l'enjeu, c'est pas de détecter la maladie quand elle est déjà détectable avec les moyens classiques, c'est de voir si ces animaux sont capables de détecter avant. Donc ça, c'est un aspect que l'on développe, et puis on travaille également sur des drosophiles, donc des petites mouches, des insectes. Comme vous le savez, les insectes ont souvent une capacité extraordinairement élevée à détecter les odeurs. Donc en fait, il faut exploiter ces potentialités du vivant pour essayer de voir si on arrive à détecter les cancers.
De l'importance de détecter, vous l'avez dit, alors de ne pas détecter tous les cancers, puisqu'on est tous porteurs de cancers, mais de l'importance de détecter ceux qui pourraient être dangereux pour nous, c'est ça.
C'est absolument ça l'enjeu, c'est pas de détecter tous les cancers, parce que je vous dis, on a tous des processus cancéreux dans notre corps. Le challenge, c'est vraiment de déterminer lesquels vont évoluer vers des formes qui sont des tueurs, et de soigner uniquement ceux-là.
Et comprendre aussi pourquoi les cancers résistent tant au traitement. Alors, ce n'est pas un hasard si vous travaillez sur cette question des cancers avec à la lumière de la biologie de l'évolution. Frédéric Thomas, vous le dites dans cet ouvrage, votre propre mère est morte d'un cancer du sein, plus d'une généralisation de ses métastases. Ça a joué dans votre démarche, c'est-à-dire que c'est à la fois pour la recherche, pour la connaissance, pour la compréhension, mais aussi véritablement pour offrir des pistes thérapeutiques aux malades du cancer.
Oui.
Que nous sommes tous en puissance.
Quasiment la totalité des gens qui meurent aujourd'hui du cancer, c'est pour la même raison. C'est-à-dire que nos thérapies, qu'ils font bien sûr appliquer, attention, on va pas dire ce que j'ai pas dit, nos thérapies vont progressivement sélectionner les variants résistants jusqu'au dernier. Donc le cancer, il évolue. D'abord, il commence par contourner nos défenses naturelles, puis ensuite nos thérapies jusqu'à la dernière, et c'est la raison pour laquelle on meurt du cancer. Mais pour les biologistes,
parce qu'il évolue et il se renforce, en vie que les plus résistants.
Exactement,
c'est ça,
comme avec l'antibiorésistance. Tout le monde a entendu parler, les antibiotiques, c'est pas automatique, etc. Parce que quand on en applique trop, forcément, ceux qui sont résistants vont gagner deux fois. D'abord parce qu'ils ne sont pas tués, et ensuite parce qu'ils n'ont plus de compétiteurs. Et c'est exactement ce qui se passe avec des thérapies très agressives contre le cancer si les variants résistants sont déjà présents dans la tumeur. Et hélas, un nombre croissant de travaux montre que bien souvent, lorsqu'on trouve une tumeur chez quelqu'un, il y a déjà des variants qui sont résistants.
Ce qui veut dire qu'on les renforce, on renforce ces tricheurs ou
ces
voyous.
On va tuer tous les sensibles et faire un boulevard aux résistants. Donc, quand on est dans une situation comme celle-ci, bien sûr qu'il ne faut pas appliquer cette thérapie extrêmement agressive, cette stratégie martiale qui oublie tout simplement que l'évolution existe et que c'est même une des forces les plus puissantes du vivant.
C'est de vous résister, de se transformer, de s'adapter.
Exactement. Alors, il faut dire que l'homme est un peu un expert dans son art de vouloir éradiquer tous ses ennemis avec des icides en tout genre, rodenticides, insecticides, pesticides, etc. Et c'est vrai que très souvent, on le sait, la conséquence, c'est qu'on sélectionne des variants résistants et après, c'est un peu la plaie pour gérer ça. Alors, il existe des solutions alternatives, et notamment une qui est développé en Californie par le professeur Robert Gattenby. Donc, ça s'appelle la thérapie adaptative et qui est basée sur l'idée l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc, en fait, je m'explique. Imaginez que vous avez une tumeur avec des variants qui sont résistants dedans. Eh bien, on va éviter de faire ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire de tuer tous les sensibles et de faire un boulevard aux résistants. Au contraire, on va appliquer des thérapies qui sont légères et régulières, qui vont venir tuer seulement une partie des cellules sensibles. Donc la tumeur, pour ainsi dire, ne va pas grossir. Hein. C'est un peu comme si on coupait les branches qui dépassent. Et puis surtout, on va maintenir la compétition entre les cellules sensibles et résistantes. Donc la tumeur va rester dans un état stable. Donc il a commencé sa démonstration avec des modèles mathématiques. Puis ensuite, il a essayé ça sur des souris. Et puis récemment, il a publié un article dans la prestigieuse revue Nature Communication dans lequel il montre qu'il soigne ses patients comme ceci. Donc, on s'entende bien, c'est des cancers qu'on ne peut plus éradiquer. Hein.
Oui, c'est tant ça. Tant qu'on peut éradiquer un cancer, il faut tous les traitements que l'on connaît, les plus invasifs possibles.
Et on ne va pas se gêner pour le faire et libérer les gens de la maladie. Lorsqu'un cancer ne peut plus être éradiqué, il faut changer de solution et adopter des thérapies qui vont contenir la maladie. Hein. Donc, vivre avec le cancer, c'est le challenge. C'est-à-dire qu'en gros, si je caricature un peu le propos, on risque de nous dire, c'est une bonne nouvelle, hein, dans les années qui viennent, bon, bah, une mauvaise nouvelle, vous avez un cancer, mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec cette thérapie-là, clairement, c'est pas ça qui va vous tuer.
Bonne nouvelle, oui, ça pourrait être une bonne nouvelle, Frédéric Thomas. Autour de la question, comment reconsidérer le cancer, notre plus vieil ennemi et celui de tous les organismes vivants à la lumière de l'évolution. On continue de découvrir l'abominable secret du cancer avec vous, Frédéric Thomas. Et parmi tous ces abominables secrets, il y en a un que vous avez choisi de nous passer entre les deux oreilles. Forever Young, Alphaville sur RFI.
The skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young.
Forever Young, pourquoi ce tube d'Alphaville sur RFI, Frédéric Thomas, pour nous interroger sur le cancer?
Ah, j'ai toujours aimé cette chanson-là, et puis c'est vrai que bah, Forever Young, c'est un petit peu le cas du rêve des humains, et malheureusement, c'est vrai que le cancer vient nous rappeler avec une brutalité incroyable ce compte à rebours qu'on essaie d'occulter au quotidien, puisque chaque jour qui passe, c'est un jour en moins. Et
parce qu'en vieillissant, on est de plus en plus sujet au cancer.
Absolument.
C'est ça. Hein.
C'est hélas une maladie qui augmente avec l'âge. La probabilité de déraillement cellulaire et puis de croissance de ces cellules cancéreuses augmente avec l'âge.
Et le fait de comprendre justement ça, qu'au fond c'est un processus évolutif qui est lié avec nous, vous parlez de vivre avec le cancer, ça peut aussi amener une approche comme ça, de dire il faut le prendre complètement différemment, ça fait partie, enfin la mort fait partie de la vie et ça fait partie de nos vies et de tout le vivant.
Oui, ben, disons que quand on s'est aperçu, je vous dis, des travaux récents montrent, donc par exemple sur des gens qui se sont tués en voiture ou qui sont morts d'une autre maladie, quand on s'aperçoit qu'effectivement la question c'est pas de savoir si on a un cancer ou pas, on a tous des cellules cancéreuses, on est bien obligé de se dire qu'il va falloir gérer ce compartiment particulier, donc cet oncobiote, comme je disais tout à l'heure. Mm-hmm. Donc le but c'est absolument pas de l'éradiquer, on peut pas de toute façon, l'idée c'est de le gérer de manière à empêcher certaines formes d'évoluer.
Je ne sais pas si vous êtes entendu de vos collègues oncologues, médecins, parce que vous parlez de pluridisciplinarité. Avant de nous répondre là-dessus, je propose d'écouter le médecin généraliste à Lyon qui s'appelle le docteur Luc Périnon et qui participe avec vous à ce nouveau diplôme unique en Europe, diplôme universitaire biologie de l'évolution et médecine, qu'il présente de cette manière-là.
Avec la réflexion évolutionniste, donc au sens général du terme, on peut reconsidérer certains problèmes. Et surtout, je crois que ce qui est très important, c'est essayer de faire sortir les médecins et les facultés de médecine dans leur ensemble de ce que j'appelle moi le monofactoriel. Tout est monofactoriel. On décide que telle maladie est due à un seul facteur. Si on soigne ce facteur, on va soigner la maladie, que ce soit les maladies psychiatriques, cardiovasculaires, les cancers, toutes les maladies. Et en fait, l'expérience prouve que rien dans la nature n'est monofactoriel, rien dans la médecine, rien dans la biologie est monofactoriel. Et donc, introduire cette pensée, ce serait un peu casser le formatage actuel des médecins sur le monofactoriel. C'est notre ambition. Alors, on commence donc à réapprendre aux médecins ce que sont les sciences de l'évolution, et puis petit à petit on intègre chaque spécialité pour voir comment intégrer cette réflexion dans chaque spécialité médicale.
Ça marche, ça fonctionne, Frédéric Thomas, ce lien avec les médecins et ce diplôme universitaire qui allie les deux?
En tout cas, en ce qui me concerne, je suis toujours extrêmement bien accueilli par mes collègues oncologues. Tout simplement parce qu'en fait, nous ne sommes pas du tout des compétiteurs. Nous regardons exactement la même forêt qu'eux, mais avec un angle différent. Et on voit des arbres différents. Donc on n'arrive pas en disant, voilà, on a la solution contre le cancer. Personne ne l'a, de toute façon, en ce moment. On arrive simplement en disant, voilà, travaillons ensemble parce qu'on a manifestement des approches qui sont complémentaires. Et donc là, à part des individus qui seraient abrutis, il n'y a aucune raison d'être contre. Hein.
C'est-à-dire le professeur Pujol qui a préfacé votre ouvrage, qui est un éminent oncologue. En même temps, quand vous dites qu'il faut vivre avec le cancer, on ne peut pas l'éradiquer, ça pourrait aussi soulever tout un tas de charlatanisme ou d'autres... Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un danger là en disant le cancer c'est un processus évolutif, on en a tous, est-ce qu'il n'y a pas un danger dans l'autre sens, si on vous comprend trop bien?
Oui, effectivement, il faut faire très attention à tous ces gourous en tout genre qui circulent notamment sur Internet. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là ne font qu'augmenter par deux la mortalité des gens, parce que très souvent, les gens vont arriver en ayant fait confiance à ces gourous, et puis la maladie sera prise trop tardivement. J'ai encore en tête un exemple du professeur Pujol qui nous parlait d'une jeune fille dans un village qui avait un cancer et qui était complètement soignable, et les parents ont préféré l'amener voir un chaman aux Philippines. Le village s'est même cotisé pour le voyage, et en fait, ils se sont pour la condamner à mort, puisque la petite est morte alors qu'elle était soignable. Donc ces gens-là sont extrêmement dangereux et il faut bien sûr les combattre, et le cancer ne sera réglé que par la science, et la vraie science, c'est la complémentarité des disciplines scientifiques. Donc là, on est sur des sciences de l'évolution. Ça permet donc d'imaginer des nouveaux traitements, mais ça reste absolument une démarche scientifique dure et pure. Hein.
Autour de la question justement des idées reçues et des fake news sur le cancer, je propose, vu du continent africain, deux éclairages particulièrement pertinents. Tout d'abord celui du docteur Alain Toledano, qui préside l'Association franco-africaine de cancérologie.
En Afrique, on considère souvent que le cancer est entre guillemets une maladie de blanc, alors qu'en fait le cancer sévit en Afrique, il fait plus de morts que le sida, le paludisme et la tuberculose réunis.
Voilà qui est dit sur notre antenne par le docteur Toledano, président de l'Association franco-africaine de cancérologie, à l'occasion du sommet de l'Union africaine à Niamey, au Niger, où devrait être signée par les présidents africains la charte de Paris contre le cancer. Car ce fléau qui touche tous les continents suscite aussi du coup de nombreuses rumeurs et autres fake news, vous l'avez dit, sur Internet, contre lesquelles lutte notre confrère de la rédaction francophone d'Africa Check à Dakar, Valdès Onanina, qui était notre invité la semaine dernière. On l'écoute et vous réagirez ensuite, Frédéric.
Les fake news, par exemple, sur le cancer. Je sais que le cancer au Sénégal, où nous travaillons au Sénégal, le cancer et le diabète sont deux maladies sur lesquelles il y a beaucoup de recettes miracles qui sont proposées sur les réseaux sociaux. Et souvent, d'ailleurs, ces recettes miracles viennent de sites internet français.
Et donc on y croit, et donc on croit que c'est vrai.
Mais les gens y croient, parce que du coup, il y a une raison à ça, en fait. Parce que nous étions, il y a quelques mois, en atelier où on réfléchissait un peu au mécanisme de ces systèmes de croyances, comme on appelle en désinformation. Et c'est que les gens, déjà, les gens n'ont pas d'argent. Si effectivement, on me dit que le gombo permet d'éliminer 75% des cellules de cancer du sein. Et que, d'ailleurs, j'aime bien le gombo. Mais c'est tant mieux pour moi parce qu'avec 300 francs CFA, je m'achète du gombo. Et comme ça, moi, ça me permet de... Voilà, de... Sauf que c'est pas prouvé, c'est pas scientifiquement prouvé.
Attention aux fausses rumeurs, attention aux charlatans. Sur le continent africain, en l'occurrence.
Absolument. Et en plus, le continent africain va être de plus en plus confronté au cancer. Hein.
C'est-à-dire pourquoi
qu'en fait, mais c'est-à-dire qu'en fait, autrefois, il y avait beaucoup de maladies infectieuses. Il y en a encore beaucoup. Hein. Mais on les soigne de mieux en mieux. Les gens mouraient également beaucoup de malnutrition. Et donc, aujourd'hui, parce qu'il y a plein de progrès qui ont été faits dans certains domaines, ils vont se faire rattraper par les pathologies comme le cancer, que l'on développe plus souvent en vieillissant. Et comme on le sait, le cancer, c'est déjà pas simple chez nous. Donc imaginez ce continent qui va soudainement s'y retrouver fortement confronté. Voilà, donc c'est comme l'a dit le docteur à Toledano, c'est déjà le cas.
Et c'est déjà le cancer, tu puisses plus que bien sûr, bien sûr. Le paludisme, alors,
ce ne sont pas les mêmes cancers que chez nous. Généralement, ce sont souvent des cancers donc, qui ont une origine infectieuse. Hein. Donc ce que je disais tout à l'heure, les papillomavirus, les hépatites, la bactérie, les hélicobactères pylori.
Et qui peuvent, l'inflammation, l'infection peut faire développer...
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'agent infectieux qui va faire dérailler nos cellules au cours du temps. Alors que chez nous, en tout cas dans les pays plus riches, c'est souvent des cancers qui sont dus au fait qu'on mange trop, on fume, on boit, on se dépense pas assez. Donc dans tous les cas, c'est vrai que bon, dans des pays où les gens ont des tendances à croire des gourous, c'est sûr que c'est très dangereux, et j'invite vraiment les gens qui sont malades à ne jamais écouter ces gens-là et de se réfugier plutôt vers la science.
D'autant qu'on le rappelle, hein, là, c'est la première cause de cancer et la première cause de mortalité dans le monde, plus de 8 millions de morts par an, une quinzaine de millions de cas déclarés chaque année dans le monde, c'est énorme. Il y a de quoi vouloir lutter de toutes ses forces, par toutes les approches. Alors justement dans les pistes thérapeutiques, comment cette approche évolutive que vous avez, on l'a vu, elle a longtemps été occultée, on n'a pas réfléchi à ça comme ça, le fait de penser le cancer comme un processus évolutif, comme des cellules voyous mais qui sont liées au fonctionnement du vivant, qui sont déjà à l'œuvre dans le vivant. Qu'est-ce que ça change au niveau thérapeutique, Frédéric Thomas ?
Alors, je vous ai déjà parlé il y a quelques minutes donc, de la thérapie adaptative, hein, qui consiste donc à jouer sur la combinaison l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Et là, je vais vous prendre un autre exemple que je trouve fascinant, sur lequel nous travaillons en ce moment avec ma collègue Marie Dutrex de l'Institut Curie, donc, qui consiste à envoyer un faux signal sur l'ADN des cellules cancéreuses. Alors, je m'explique, c'est un petit peu obscur comme ça. Les cellules cancéreuses sont extrêmement instables génétiquement, tellement instables qu'elles occasionnent elles-mêmes des tas de dégâts sur leur propre ADN et elles doivent en permanence le réparer, sans quoi elles n'arriveraient même pas à fonctionner elles-mêmes.
Hein. C'est-à-dire que ces cellules si résistantes à nos traitements sont au fond... Enfin, ont des talons d'âge, ils sont fragiles.
Oui. Alors du coup, forcément, une première idée de thérapie, ça a été de dire on va les empêcher de réparer. Comme ça, on va les conduire à un désastre génétique. Bon. Et donc, ça marche jusqu'à ce que ça ne marche plus, puisque là encore, tôt ou tard, les cellules cancéreuses arrivent à trouver une parade. Et d'une façon générale, j'ai envie de dire que toutes les stratégies basées sur l'idée « on va les empêcher de », eh bien, après un certain stade de développement du cancer, ces stratégies sont vouées à l'échec, puisqu'on aura toujours des variants qui vont contourner le traitement.
Donc ça peut marcher au début, mais si on élimine complètement et totalement...
Ça marche jusqu'à la sélection de résistance. Donc là, au lieu de les empêcher de réparer leur ADN, ce que nous proposons avec ses collègues de l'Institut Curie, c'est de leur envoyer un faux signal qui fait croire qu'il y a plein de dommages partout. Donc, je caricature, mais les cellules cancéreuses, au départ, sont extrêmement affolées. Elles envoient tout ce qu'il faut, des enzymes sur place, etc., pour essayer de réparer cet ADN abîmé. Mais comme c'est une fausse drogue, eh bien, elles font ça pour rien. Et donc, beaucoup s'épuisent et elles n'en tirent pas le bénéfice. Donc, beaucoup vont mourir. Et la seule possibilité que ces cellules ont de devenir résistantes à ce traitement, c'est d'arrêter de répondre, exactement comme quand vous avez un détecteur de fumée qui est mal réglé et qui sonne toutes les 3 minutes. Là, s'il sonnait une seule fois, là, on sortirait tous du bâtiment en disant « bon, bon sang, il y a le feu. Mais s'il se met à sonner toutes les 3 minutes, on va continuer l'émission en se disant, c'est, voilà. Ben, c'est exactement ce qui se passe. Et donc, les cellules cancéreuses, avec ce taux de fausse alarme qui augmente, vont augmenter le seuil au-delà duquel elles répondent, quitte à se mettre en danger en cas de vraie attaque. Et c'est évidemment ce que l'on fait. Au bout de la 10e semaine, on envoie une vraie attaque. Et donc là.
Et elles ne se défendent plus.
Ben là, elles n'arrivent plus à se défendre. Donc,
au fond, il faut utiliser, comment dire, un peu des outils voyous pour. Enfin, des outils de triche.
Il faut avoir des outils aussi rusés et qui évoluent autant que enfin, les stratégies martiales qui consistent à dire on va tout éradiquer quand il y a déjà trop de variations, ça ne marchera pas.
Donc, finalement, dans le vivant, ce n'est pas la course aux armements, parce que là, on sera rattrapé. Enfin, on peut user de course aux armements, mais il faut avoir d'autres stratégies, d'autres tactiques en même temps.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, le cancer évolue. Donc, c'est la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle pour les biologistes de l'évolution, c'est que s'il évolue, ça veut dire qu'on peut apprendre à gouverner son évolution. Et la bonne nouvelle, c'est que les cellules cancéreuses, comme toute entité vivante, sont régies par la sélection naturelle qui n'a pas d'objectif à long terme, qui n'a pas d'agenda. Le cancer ne cherche pas intrinsèquement à nous tuer. Alors que nous, bien sûr, dans le cadre de nos thérapies, de notre intelligence, de notre stratégie, on peut mettre en place des stratégies qui vont consister à les berner, à les amener dans l'impasse, dans le mur, en tout cas là où elles ne seront pas responsables de notre décès.
On a l'impression aussi, en étudiant cet abominable secret du cancer, en tout cas à la lecture de ce livre, qui n'est pas du tout, je sais pas comment dire, qui n'est pas angoissant, qui n'est pas stressant, c'est assez étrange. Mais c'est quoi? C'est le fait de comprendre comment ça fonctionne, le fait de se dire il y a peut-être des pistes possibles, ou en tout cas il faut tout notre attirail, toute notre intelligence pour arriver à faire face, à vivre avec, comme vous dites, avec le cancer. C'est ce que vous en retirez vous aussi? Pas un optimisme, mais enfin c'est pas un pessimisme. Ouais. Absolu.
Pour plein de gens, le cancer, c'est 6 lettres terrifiantes et ils ne savent pas trop ce que c'est derrière. Et c'est vrai que j'ai avant tout voulu expliquer ce qu'était le cancer. Et je l'ai fait lire effectivement à des gens qui étaient malades à différents stades de la maladie parce que je voulais absolument que cet ouvrage ne soit pas anxiogène. Hein. Je voulais à tout prix expliquer. Et effectivement, il semblerait que j'ai réussi mon coup au sens où les gens qui l'ont lu m'ont dit mais maintenant qu'on comprend ce que c'est et en replaçant le cancer dans la grande perspective du vivant, bah c'est pas angoissant. On s'aperçoit, on voit que c'est un processus biologique complexe, mais le fait de le comprendre, on en a moins peur. Et puis, chose intéressante aussi, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils avaient trouvé cet ouvrage profondément déculpabilisant, à la fois pour le malade et à la fois pour l'entourage. Hein, c'est vrai, quand on est malade ou qu'on accompagne quelqu'un qui est malade, on a toujours tendance à se dire, mais bon sang, qu'est-ce que j'ai fait pour que... Voilà. Et donc, en fait, cet ouvrage a été perçu comme déculpabilisant par les gens et ça m'a fait profondément plaisir.
Frédéric Thomas, vous avez l'impression, alors évidemment, vous travaillez sur le cancer et en espérant de tout cœur que ça débouche sur des thérapies, mais vous avez l'impression que vous ne travaillez pas aussi sur le vivant en général, enfin la manière dont le vivant évolue, qu'au fond comprendre le cancer c'est aussi comprendre comment, pourquoi on est tous vivants sur Terre et avec plein de cellules à l'intérieur de nous.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses sont des entités vivantes qui évoluent et donc elles utilisent hélas la boîte à outils qui est celle qui nous a permis d'exister aussi, de construire les beaux organismes que nous sommes. Elles détournent cette boîte à outils pour faire un système parallèle, voyou à l'intérieur, mais ça reste de l'évolution. Et c'est vrai que la sélection naturelle n'est pas immorale, elle est juste amorale, et donc c'est une forme de vie comme une autre. Elle se développe malheureusement à notre détriment, et c'est aussi par la science de l'évolution qu'on arrivera à mettre au point des traitements qui feront qu'il n'y aura plus de souffrance humaine associée au cancer.
Merci infiniment Frédéric Thomas d'être venu en direct nous faire partager toutes ces pistes de recherche, de compréhension et de nouvelles approches face à notre plus vieil ennemi, le cancer, ces cellules tricheuses et voyous, l'abominable secret du cancer. C'est le titre de votre ouvrage essentiel et très simple à lire qui vient de paraître aux éditions Humaine Science. Vous revenez quand vous voulez, bien sûr Frédéric Thomas, merci. Partager la suite de vos recherches et de vos découvertes. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs. Autour de la question, comment mettre la science en jeu et sur les planches, regard croisé de chercheurs et de dramaturges sur leurs expériences théâtrales en Avignon et ailleurs, avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre fidélité et de votre curiosité. Chers amis auditeurs, surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.